France Inter.
Docteur en art et diplômée en photographie de l'ENS Louis Lumière, l'artiste plasticienne, autrice et chercheuse Stéphanie Solinas a constitué avec ses livres, ses voyages et ses œuvres un cosmos parfaitement cohérent autour du visible et de l'invisible, de la science et de la croyance. Le point de contact direct dans la religion catholique entre science et foi étant, pour reprendre ses mots, le miracle. Depuis 2014, elle mène un ensemble d'opérations de cartographie des identités entre matérialisme et transcendance, en sillonnant des territoires comme l'Islande, l'Italie et les États-Unis. Dans chaque pays, elle enquête sur ses sujets de prédilection en interrogeant des spécialistes et en transformant ses pèlerinages souvent métaphysiques en objets littéraires, filmiques, artistiques et poétiques. Auteur des ouvrages Dominique Lambert, Sans titre Monsieur Bertillon, Le soleil ni la mort ou encore Guide du pourquoi pas, elle expose en ce moment Rien ne va plus à la galerie Jean-Kenta Gauthier Vaugirard à Paris, exposition dans laquelle on peut jouer aux jeux de société casino existentiel qu'elle a inventé, le Rio Buenaventura, un jeu qui prolonge son livre L'être plus, itinéraire pour devenir soi-même paru au seuil, et dans lequel elle explore les questions de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté, de la spiritualité et de la quête d'immortalité. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure. Eva Bester.
Bonsoir Stéphanie Solinas.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmée, c'est un enthousiasme souvent partagé, c'est un lever de soleil. Voilà, un enthousiasme classique, nous dirons, mais qui fonctionne à chaque fois. Enfin, d'autant plus que ce lever de soleil était dans une résidence d'écriture dans laquelle j'ai eu la chance de passer un mois en Suisse, la Fondation Michalski. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup écrit, et j'avais cette envie d'écrire qui venait assez tôt le matin. Donc, je me levais aux aurores, littéralement, et j'ai eu un matin la chance de voir le soleil se lever au loin et éclairer progressivement les différentes cabanes et les coteaux du Jura dans lesquels nous étions logés, et c'était très beau.
On peut trouver des ouvrages qui témoignent de votre intérêt pour les levers de soleil et les couchers de soleil. Là, est-ce que vous l'avez photographié ?
Je l'ai photographié avec mon téléphone portable.
Et ça donne quelque chose de bien ou c'est décevant ? Parce que par exemple, la Lune, je trouve que c'est décevant avec le téléphone.
Oui, la Lune, c'est très difficile à photographier. En fait, c'est toujours très difficile de photographier ces moments entre chien et loup. C'est-à-dire ces lumières à peine perceptibles pour l'œil, mais qui gardent toute leur richesse. Et l'appareil photographique, il y a des choix à faire. Donc... ce ne sera jamais. C'est pour moi, c'est vraiment un équivalent des espaces américains, en fait. C'est-à-dire dont l'expérience de l'espace est très forte en termes de présence et quand on y est, et souvent un peu déceptif en photographie.
Vous avez mis plusieurs citations en exergue de L'être plus, itinéraire pour devenir soi-même, paru au Seuil. Il y en a une d'Olga Tokarczuk, la prix Nobel polonaise. Nous sommes tous un gigantesque roman qui est parfaitement cohérent. Alors moi, en la lisant, je me suis surtout dit que ça parlait parfaitement de votre œuvre avec des correspondances en tous sens.
Oui, absolument. Quand j'ai entendu cette phrase, c'était dans le cadre d'une interview, c'était dans l'émission Boomerang. Et quand je l'ai entendue, évidemment, ça a vraiment résonné en moi, d'autant plus que je pense que c'est peu de temps auparavant que j'avais lu Les Pérégrins, là aussi, qui m'avait parlé dans cette capacité à juxtaposer en fait des éléments et à travailler dans les creux, enfin dans les absences, c'est-à-dire dans les espaces vides entre les différentes histoires qu'elle choisissait de juxtaposer dans Les Pérégrins. Et je pense qu'il y a des c'est un élément qui pour moi était très inspirant et très fort.
Alors là, je vais vous dire presque n'importe quoi, mais si par exemple je pouvais faire une photographie de votre psyché, ça ressemblerait, tel que je me l'imagine, à un cosmos ou à une toile d'araignée parfaitement dessinée. Est-ce que vous avez un mode de pensée plutôt linéaire ou plutôt heuristique, c'est-à-dire en arborescence ?
Alors la question des liens m'intéresse beaucoup et me semble vraiment un élément moteur dans mon travail. qui est vraiment en fait une manière de l'enquête, en fait, de la recherche. Et c'est vrai que, voilà, cette dimension dynamique, cette idée d'avancer, de poser une question, que cette question mette en mouvement, amène pas forcément une réponse, mais en tout cas une nouvelle formulation qui, elle, ouvre de nouveaux chemins à ouvrir et à suivre. Ça m'intéresse beaucoup, parfois pour justement fermer certains chemins et continuer à en ouvrir d'autres. Donc oui, et cela dit, l'image que vous employez est assez juste, puisque, en tout cas, dans tous les cas, la forme de l'univers et la forme d'un cerveau est assez proche, en fait, sur cette manière de s'organiser entre des réseaux de neurones.
Eh bien, je suis docteur en sciences, merci beaucoup. Il y a une citation aussi du boxeur poète Arthur Cravant. Plutôt que d'être pur, acceptez-vous nombreux. Est-ce que vous le faites ?
J'y travaille et je pense que la recherche que je mène dans le cadre de mon travail artistique y participe. Et c'est en ça que, notamment, le territoire islandais, qui est l'un de mes trois territoires de travail depuis plusieurs années, m'intéresse beaucoup, parce qu'en Islande, on peut croire aux elfes et être politicien. C'est-à-dire que ça ne s'oppose pas, c'est-à-dire qu'il y a des formes plurielles d'identité qui existent et qui s'assument en tant que telles, et ça n'est pas du tout problématique. Et cette mobilité-là, cette ouverture du champ des possibles... m'intéresse.
Parce qu'on cherche plutôt l'unicité, et même toutes ces dernières décennies, ces derniers siècles, même dans les choses de développement personnel, on cherchait à justement rassembler ce, comme une défragmentation et être dans l'unicité. C'est très intéressant de le voir autrement, à l'opposé d'ailleurs.
Cette dimension dynamique qu'on a évoquée dans la recherche, pour moi, elle est aussi une forme qu'il m'importe d'activer dans la question de nos identités. Alors, d'ailleurs, j'en parle souvent de manière beaucoup plus simple plutôt que de la question de l'identité. Je parle vraiment de qu'est-ce qui nous constitue entre une forme visible et invisible, entre science et croyance, entre une présence avérée au monde scientifique. Et puis, évidemment, on est nos disparus, les générations qui nous ont précédés, notre mémoire, notre spiritualité. Donc, cette chose beaucoup moins tangible. Et justement, faire l'exercice de ces différentes réalités, de la mobilité, du passage entre ces différentes dimensions de nos identités, de ce qui nous constitue, m'intéresse. Et c'est en ça que le travail d'Alphonse Bertillon, par exemple, qui est l'inventeur du face profil judiciaire dans la préfecture de police de Paris à la fin du 19e siècle, qui est le père de la photographie d'identité, pour le dire de manière très simple, à la fois dans sa forme et dans son usage, m'a tout de suite beaucoup intéressée aussi parce que justement, personne ne sait exactement ce qu'est l'identité, qu'on soit un juriste, dans le champ littéraire, dans le champ psychanalytique, tout le monde va avoir une définition différente. Mais lui, il a formulé une définition qu'il a finalement réussi à appliquer à l'ensemble de la société. Et dans sa définition même, dans l'utilisation même de la photographie, finalement, il nous montre tout ce qui échappe. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher ce qui échappe des outils qui sont à notre disposition pour représenter ce que nous sommes.
Et justement, il y a quelque chose qui échappe à la majorité d'entre nous, c'est le sens de la vie. Et vous mettez en exergue aussi une citation attribuée à Lewis Carroll. Pourquoi attribuer d'ailleurs ? Parce que ça vient d'Alice au Pays des Merveilles.
Oui, alors j'ai trouvé, donc il y a tout un travail de recherche sur Internet, et j'avais trouvé qu'en fait, c'était une citation qui n'avait pas de... Enfin, qui était attribuée et pas avérée auprès de Lewis Carroll.
Bonjour, voilà. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ? Vous en avez inventé un avec votre cosmos ?
Je le cherche, c'est justement une dynamique. En tout cas, oui, je pourrais dire que c'est un moteur, et je pense que c'est le moteur qui me fait identifier des personnes, des lieux qui me semblent pouvoir m'éclairer par rapport à cette question-là, dans le sens où, parfois, peut-être de l'extérieur, on a l'impression que les autres mènent leur vie d'une manière beaucoup plus logique et structurée et simple. Et je pense que cet aspect-là me donne envie d'aller les interroger et d'aller les interroger peut-être comme un... Il y a une dimension tout à fait documentaire dans mon travail, donc quelque chose qui va chercher et chercher de manière précise, de garder leurs mots, de prendre des images de ces différents territoires que je visite. Mais en fait, je crois que je regarde précisément et je me cherche moi. C'est sans doute un miroir qui est à la recherche, qui est à l'œuvre dans ces rencontres. Et ce qui m'intéresse ensuite dans mon travail, c'est de le transmettre, c'est de le proposer également, ce même miroir, en y ajoutant mon visage.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Je suis avec l'artiste, plasticienne, auteure et chercheuse Stéphanie Solinas. Parlons d'abord de votre livre « L'être plus, itinéraire pour devenir soi-même » paru au Seuil. Enfin, d'ailleurs, parlons d'abord de « Devenir soi-même » puisque c'est le nom que vous avez donné à l'une de vos investigations, l'Américaine, hein, une enquête road trip menée pendant 5 années sur la côte ouest des États-Unis. Plusieurs œuvres en sont issues, livres, vidéos, installations, performances. Et je crois que la base du projet, c'est la première lettre signée par Hawkins sur l'intelligence artificielle.
Oui, absolument. C'est en janvier 2015, j'ai pris connaissance de cette toute première lettre ouverte qui parlait de l'intelligence artificielle, donc signée par Stephen Hawking, signée par Elon Musk à l'époque, et qui annonçait justement l'arrivée de l'intelligence artificielle, les grands bénéfices qui étaient attendus de cet outil pour l'humanité, mais souhaitait quand même mettre le doigt sur le fait que peut-être cette invention avait néanmoins les capacités à détruire l'humanité. Évidemment, dans mon travail qui est traversé par la question de nos identités, de ce qui nous constitue, j'ai eu envie d'aller rencontrer cette part ambivalente, disons, de avenir de nos identités. Donc j'ai fait du territoire de la côte ouest américaine un territoire d'enquête pendant plus de 5 ans.
Et donc, il y a évidemment des gens qui sont plutôt du côté de la technologie, des gens qui sont plutôt du côté de la spiritualité qu'on pourrait qualifier de New Age, mais finalement, les points communs, c'est la quête de transcendance et d'immortalité, in fine.
Oui, absolument. C'est-à-dire comment se dépasser, quelles sont les perspectives de développement qui sont offertes à l'humain. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment le point de départ qui m'a fait choisir ce territoire, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était deux propositions qui s'opposaient, qui évidemment, finalement, sont beaucoup plus imbriquées, mais qui est d'une part une solution scientifique, technologique, donc se développer avec l'intelligence artificielle, avec la cryogénisation, repousser les frontières de la mort, le transhumanisme, le biohacking, ou se développer avec, en parlant d'un développement du potentiel humain, un développement personnel. Et là, on est plus du côté du vocabulaire du New Age, qui est né sur ce même territoire exactement, puisque la côte ouest américaine est le berceau à la fois du New Age et de la Silicon Valley.
Entre chaque entretien, il y a la pérégrine, pour reprendre un mot que vous avez prononcé tout à l'heure. C'est elle, la narratrice. On se dit que c'est vous aussi. Et notamment j'ai lu cette phrase, quand elle était étudiante en photographie, elle voulait savoir comment différencier la lumière de l'aurore de celle du crépuscule d'avant-nuit. Et vous citez plus loin une maxime de La Rochefoucauld, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement en vous. Vous avez fait les deux, vous avez d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Le soleil ni la mort.
Oui, j'ai tenté de faire les deux et justement, ça échappe, tout échappe. Enfin, dans le livre Le soleil ni la mort, aux éditions d'Elpire, c'est un livre qui met en parallèle deux moments de mes recherches américaines, donc qui sont la rencontre avec la fondatrice et avec le CIO, le PDG d'un institut de cryogénisation, Alcor, dans la banlieue de Phoenix, en Arizona. Et que je croise avec un deuxième moment qui est arrivé plusieurs semaines plus tard, sur le territoire de la côte ouest. À un moment, je me suis retrouvée dans un petit avion 6 places, piloté par un ingénieur de la Silicon Valley. Et on s'est retrouvés à la fin du jour à voler au-dessus de San Francisco. Et d'un côté, nous avions le soleil couchant à l'ouest, et à l'est, la pleine lune qui montait. Donc c'était pas du tout prévu. J'étais dans cet avion avec mon appareil photo et j'ai commencé à photographier évidemment le soleil couchant, mais quand je photographiais le soleil couchant, je manquais la lune montante. Donc c'est une série de photographies qui sont des oscillations, en fait, du renoncement, puisque chaque image témoigne de l'image manquante de l'autre phénomène auquel j'étais confrontée. Et c'est plusieurs semaines plus tard, dans l'atelier, que je me suis rendu compte que ces deux moments s'éclairaient, et notamment il y a des connexions, des clés très précises dans le livre. D'une part avec Linda Chamberlain, donc la fondatrice de cet institut de cryogénisation, à qui je demande si les ressuscités vont être 100% identiques à leur version originale. Et elle dit absolument pas, mais en même temps, nous non plus. C'est-à-dire qu'il est facile de se rendre compte que nous ne sommes pas la même personne qu'il y a 20 ans, mais évidemment, il est plus difficile de se rendre compte que nous ne sommes pas la même personne qu'hier, ce qui est le cas. Et en fait, pour moi, ces photographies, qui est en fait une séquence de photographies, quand on passe de l'une à l'autre, on a l'impression que ce sont les mêmes images. Et évidemment, au début du livre, il fait jour, et à la fin du livre, il fait nuit.
Pour revenir aux entretiens qu'on peut lire dans L'être plus itinéraire pour devenir soi-même, en fait, ce qu'on se dit, c'est que rares sont les gens qui aiment la vie comme elle est, ou leur corps comme il est, ou le réel comme il est, c'est-à-dire limité, puisque chacun cherche à justement le déployer. Et vous avez rencontré, par exemple, un biohacker qui s'est mis des écouteurs dans les oreilles et des aimants dans les doigts, mais qui n'a pas réussi à aimanter la météorite que vous aviez dans votre sac. Qui vous a le plus surprise ?
Je pense à un autre biohacker qui s'appelle Josiah Zeiner, qui travaillait pour la NASA et a quitté la NASA pour fonder son studio, son entreprise qui s'appelle The Odin, du nom de ce dieu nordique, et qui propose des kits de manipulation génétique accessibles à tous. Donc pour $5, on peut commencer à manipuler son génome dans sa cuisine. Et cette dimension politique du biohacking, d'une forme de réappropriation complètement radicale de son propre corps, m'a intéressée. Et voilà, ensuite il y avait aussi à la fois cette dimension très donc politique et sérieuse, disons, par rapport, et en même temps cette dimension tout à fait ludique d'expérimentation qui est vraiment ce qui était le cœur de sa proposition, et notamment le fait qu'il s'était hybridé avec des gènes de méduse.
Oui, de méduse par le vecteur de virus.
Exactement.
C'était fabuleux. Et ce qui est très étonnant avec cet interlocuteur, c'est qu'il paraît pourtant être l'un des plus sages, parce qu'à un moment, il vous explique qu'en fait, les êtres humains veulent toujours des raccourcis et qu'on a toutes les solutions sans se modifier. C'est-à-dire, on voudrait aller mieux, on pourrait faire du sport, on pourrait mieux manger. Je veux dire, tout est dans notre pouvoir, mais on veut des raccourcis, on veut tricher.
Exactement. Et comme il dit, ça fonctionne, mais ça ne marche pas à tous les coups.
À un moment du livre, vous dites que vous avez l'impression de vous retrouver face à une montagne. Et tout à l'heure, vous parliez de ce qui échappe. Je voulais savoir si, à force d'interroger tous ces êtres que vous avez rencontrés depuis tant d'années, est-ce que vous en savez plus ou est-ce que vous êtes encore plus confuse, puisque, comme le dit un de ceux que vous interrogez, il n'y a pas qu'une seule vérité.
Effectivement, je pourrais dire que la montagne continue à grandir. Et que... peut-être que l'expérience que je retire justement de toutes ces rencontres, c'est alors d'une part, identifier que ce qu'il m'importe, c'est de dessiner un chemin dans cette montagne, et pas forcément de la gravir pour aller à son sommet, mais d'en dessiner un itinéraire qui m'appartient et qui me permet de dégager certaines vues, disons, sur le sujet qui m'intéresse. Et d'autre part, je crois que ces différentes rencontres m'ont accompagnée sur l'idée d'accepter finalement, de manière beaucoup plus sereine, qu'il existe cette montagne que je ne pourrais sans doute jamais contempler depuis son sommet. Et c'est très bien comme ça.
À un moment, vous rencontrez Aubrey de Grey, docteur en sciences informatiques et en biogérontologie, qui propose de résoudre les 7 causes du processus de vieillissement. Il dit qu'il n'a aucun respect pour l'idée que la vie a du sens, qu'il n'a pas l'intention de mourir, qu'il se moque de l'identité ou de la vie après la mort. Bon, alors là, c'est vous que j'interroge, Stéphanie Solinas. Avez-vous peur de vieillir ? Avez-vous peur de mourir ?
J'évite toujours ces questions directes, justement. je les contourne pour essayer de... Par contre, je les contourne en les posant à d'autres, généralement. Donc c'est vrai que... Mais en même temps, mes interlocuteurs me demandent souvent si je réponds moi-même à mes questionnaires ou à mes questions. Donc, pour vous répondre... sans doute qu'il y a quelque chose qui est une interrogation, mais au sens le plus profond de mon être par rapport à cet inconnu-là, à cette incertitude-là. Et sans doute que mon travail d'artiste me permet justement, je parlais de la figure du miroir tout à l'heure, de contacter des inconnus et effectivement de me placer à la même table qu'eux et de poser directement cette question-là qui m'importe. C'est-à-dire, voilà, d'avoir, comme vous le faites aujourd'hui...
C'est plus facile, c'est parce que je ne vous connais pas que c'est plus facile.
Exactement. Donc, c'est ce que permet, en tout cas, de mon côté, le travail d'artiste. Et c'est aussi... une forme de réponse. L'œuvre artistique, elle est aussi indépendante, elle a une vie indépendante en dehors de son auteur. Donc c'est aussi pour moi une forme de réponse par rapport à ça, avec tout le côté absolument dérisoire. Comment dire ? Elle est une photographie, un livre, c'est aussi une forme mortelle, effaçable, oubliable, comme nous. Donc... c'est une forme de confiance dérisoire.
Les livres vivent un peu plus longtemps en temps normal.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Stéphanie Solinas, dans votre ouvrage « L'être plus, itinéraire pour devenir soi-même », à un moment, vous rencontrez Shinji Eshima, compositeur et contrebassiste au San Francisco Opera et San Francisco Ballet, et vous lui posez la question « Quel est le sens de la vie ?» Et il vous répond, c'est magnifique, avec un piano, notamment en commençant par un ré majeur qui pourrait être Dieu, dit-il. Et là, alors, vous n'avez pas aimé, évidemment, puisque je vais vous poser une question directe. Et c'est ce que vous faites normalement aux autres. Mais quel est votre rapport à la foi à la transcendance ou au sacré, quel qu'il soit. Quelle est votre vie spirituelle ?
Elle est mobile, c'est-à-dire que justement, et c'est tout l'exercice que je mets ensuite dans mon travail, c'est-à-dire, ça n'est pas la question de est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas. Ça, c'est une question que je me pose à moi-même, mais dans mon travail, ça n'est jamais cette question-là. C'est-à-dire, c'est... être attentif au réel, et dans le réel, il y a plein de choses qui n'ont pas d'explication rationnelle. Et j'ai un esprit très rationnel. Donc je cherche à comprendre ces choses qui n'ont pas d'explication rationnelle. Et en faisant ça, je me retrouve confrontée à des énigmes, à des mystères auxquels je n'ai pas de réponse, et pour répondre, alors je vais essayer de répondre de manière directe à votre question directe, effectivement, je pense que c'est un rapport oscillant. C'est-à-dire variable, c'est-à-dire qui me maintient, exactement, mais qui me maintient, je pense, attentive à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi.
Le jour où vous avez renoncé à la peinture, est-ce que vous avez cru que la peinture était morte ?
Non. D'abord, je n'ai pas renoncé. Vous savez, si j'ai une idée demain, je la ferai. Je n'ai pas fait de vœux du tout, d'aucune sorte. Et je... simplement, j'ai arrêté parce que je n'avais plus rien à dire pour le moment, je n'avais pas d'idée. Les idées ne viennent pas si facilement que ça, parce que comme moi, je n'ai pas travaillé avec l'idée de faire une chose tous les matins à 8 heures, me mettre où je fallais. Par conséquent, je n'ai envie de travailler que lorsque quelque chose me touche d'une façon ou de l'autre. Et alors, je veux chercher, trouver une façon d'exprimer cette idée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu depuis longtemps, et c'est tout, c'est ce que je peux dire. Mais je n'ai pas fait de vœux du tout de ne pas faire de peinture.
Marcel Duchamp en 66 sur la RTBF au micro de Jean-Antoine. Stéphanie Solinas, dans votre ouvrage « L'être plus », vous citez Marcel Duchamp en 68. « Tout l'effort de l'avenir sera d'inventer, par réaction à ce qui se passe maintenant, le silence, la lenteur et la solitude. » Quel visionnaire !
Quel visionnaire !
On en est si loin !
Absolument.
Vous arrivez à trouver la lenteur et la solitude ?
Là encore, c'est quelque chose qui est au travail. Et la proposition justement de la forme jouable de l'être plus, la proposition du Rio Buenaventura, est pour moi une forme de réponse directe à ces questionnements-là. C'est-à-dire que je demande aux personnes qui souhaitent faire l'expérience de cette œuvre 2 heures, enfin très précisément 122 minutes de leur temps, ce qui n'est pas rien justement aujourd'hui dans nos emplois du temps si chargés, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de passer ces 122 minutes ensemble pour faire l'expérience que je propose. Donc ça, c'est une forme de réponse, et c'est d'autant plus une forme de réponse à Marcel Duchamp, à cet aspect-là de Marcel Duchamp, mais également... quand il parle de la question du jeu et de reconnaître en fait que nous jouons à un jeu en obéissant à des règles sur lesquelles lequel nous venons de nous mettre d'accord. Et le Rio Buenaventura, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est des règles qui sont fondées sur les faits et les croyances qui ont construit notre société, qui la construisent justement avec cette vision de la côte ouest américaine, et de pouvoir arpenter cette mécanique de jeu pour finalement les reconnaître et se positionner par rapport à ces propositions.
Place au jeu.
Dirigez la visière vers la bouche de Zoltar.
Génial.
Zoltar dit, faites votre vœu.
Je fais mon vœu. D'accord. Je voudrais être plus grand.
Enfoncez le bouton rouge pour libérer la pièce.
C'est un extrait du film Big de Penny Marshall, sorti en 88, dans lequel on voit un petit garçon devant un turc mécanique appelé Zoltar, qui fait un vœu, être plus grand, et qui se retrouve projeté dans le corps d'un adulte. C'est pour introduire un peu de magie, ou plutôt d'aspect ludique dans cette émission avec vous, Stéphanie Solinas, puisqu'en prolongement de votre livre, vous montrez une exposition « Rien ne va plus » jusqu'au 28 juillet à la galerie Jean-Kenta Gauthier-Vaugirard dans le 15e à Paris. Ça s'articule autour du Rio Buenaventura, conçu à partir d'une véritable table de roulette du casino Golden Gate de Las Vegas, à la croisée du jeu de loi, du Monopoly, du tarot et donc évidemment de la roulette. Et on peut aller sur le site de la galerie pour s'inscrire à des parties publiques dont vous êtes la dealeuse, le dealer au casino. Il y a un petit calendrier en ligne sur leur site et ce sont des parties publiques qui ont lieu le samedi après-midi. Je vous laisse nous expliquer en quoi ça consiste. C'est la 11e station des 12 stations consacrées à l'imaginaire de l'Ouest américain.
Oui. Donc le Rio Buenaventura, très précisément, c'est un GPS, c'est-à-dire que c'est un Game Positioning System, un système de positionnement jouable sur les routes de l'humain augmenté sur le territoire de la côte ouest américaine. Plus précisément, c'est une mécanique de jeu qui permet à 7 joueurs voyageurs de faire l'expérience d'une lecture, donc d'une expérience, d'une traversée, disons, individuelle et collective, des lieux et des personnes rencontrées dans le cadre de... Enfin, qui est présenté dans l'être plus. Et ces 7 joueurs voyageurs ont 122 minutes pour obtenir l'immortalité, au maximum, puisque le Rio Buenaventura ne garde qu'un seul ou une seule gagnante à la fin de cette partie.
Dont le nom est tatoué sur une main par un vrai tatoueur.
Exactement, une main en silicone qui conserve le nom de l'immortel, donc du joueur ou de la joueuse voyageuse qui gagne la partie.
Alors rien n'est laissé au hasard, contrairement au jeu. Les 7 pions sont des petites voitures en bronze surmontées d'un élément trouvé sur place, quartz, obsidienne, pyrite, qui devient d'ailleurs le nom des joueurs. C'est à la fois beau, poétique, enfin vraiment, rien qu'un pion, j'ai failli en voler un. Vraiment, voilà, je vous le dis. Mais j'ai hélas trop d'éthique, ce qui m'a beaucoup limité dans la vie. Il y a une symbolique, vous avez pensé à tout, vous avez établi des correspondances entre tout, et ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut prendre, Stéphanie Solinas, chacune de vos œuvres séparément, ou les consulter ensemble, puisque votre livre Lettre Plus, le sommaire ressemble à un jeu de tarot. Il y a des cartes qui sont des atouts sur la table du jeu, et on peut consulter le livre pour enrichir la partie.
Oui, c'est vraiment une transcription du livre dans une forme mobile, une forme dynamique justement, qui était aussi pour moi une forme de réponse à ces grandes questions finalement qui sont soulevées dans le livre, et notamment la question de l'immortalité et de notre finitude, évidemment en creux, puisque la question de l'augmentation, de l'humain augmenté, pose la question de notre propre obsolescence. Et finalement, dans le livre Lettre Plus, dans la marge, il y a des mots qui viennent séparer, identifier en fait différents passages du livre. Et ce sont ces mots-là qui deviennent des cartes du tarot qui sont utilisées sur le territoire, disons, du Rio Buenaventura. Donc le lien, il est direct. Et évidemment, ça me permet, avec cette mécanique de jeu, cette table de jeu, de proposer une version augmentée en elle-même de l'être plus, puisque ça me donne l'occasion de partager des images que j'ai faites sur ce territoire-là, des voix de mes différents interlocuteurs, des images de leur forme de présence. On ne voit pas de visage, mais on peut voir par exemple la barbe d'Aubrey de Grey qui répond à mes questions.
Il y a des prismes, il y a des planètes. Une galeriste, Camille, m'avait tout expliqué. J'ai failli tomber dans les pommes parce que je ne comprenais rien et c'était fabuleux et fascinant. Et elle m'a dit qu'il existait des guides pour devenir autonome. Il fallait les lire 112 fois, je pense, pour maîtriser le jeu comme vous, Stéphanie Solinas. Et justement, là, vous avez dit le mot question. À nouveau, je vais vous poser des questions puisqu'il y a des cartes questions. On est obligé de répondre. Absolument. Les autres joueurs peuvent contester la réponse.
Oui.
Vous acceptez que je vous en pose deux?
Je vous en prie.
Alors, c'est vous qui les avez inventées. Qui veille sur vous?
Alors, selon différents médiums islandais, pas mal de monde en fait.
Ah oui, oui. Vous en sortez bien.
Exactement.
Alors, la deuxième question qui est absolument parfaite pour vous, je ne pensais pas que j'avais aussi bien choisi. Comment vous cachez-vous?
Ah oui.
De toutes les manières.
Sans doute dans les mots des autres. Et sans doute que, justement, là aussi, ce sera une réponse islandaise, que, par exemple, dans mon livre « Le pourquoi pas », il n'y a pas un seul mot qui est de moi. Ce ne sont que les mots de mes différents interlocuteurs, qui sont soit des médiums, soit des généticiens, soit des artistes. Mais ma présence, elle est éminemment formatrice, créatrice de cette proposition, puisque c'est du travail de coupure. Donc c'est une présence en creux, fantomatique, mais qui, en même temps, est une présence qui organise.
Que pensez-vous des fantômes, sachant que vous avez fait une série photographique appelée Les Revenants, et puis je pense aussi à la série des déserteurs avec les inconnus sur les tombes.
Oui.
C'est quoi un fantôme pour vous?
Pour répondre justement, est-ce que déserteurs sont des fantômes? C'est une bonne question. En tout cas, c'est cette... Ils le sont si je prends comme définition une forme des disparus qui ne le sont pas vraiment, c'est-à-dire qui continuent à avoir une présence qui agit dans le monde et que l'on maintient pour diverses raisons. En tout cas, déserteur, c'était vraiment cette idée de, je l'évoquais tout à l'heure par rapport à ne pas. Voilà, que notre confiance dans l'image, dans l'œuvre d'art, dans la photographie doit être limitée par rapport à sa capacité à conserver les identités. Déserteur, c'est vraiment ça, c'est un inventaire de toutes les photographies manquantes sur les tombes du cimetière du Père-Lachaise. Donc c'est exhaustif, on a placé toute notre confiance pour conserver cette identité dans cette image, mais l'image disparaît.
Then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time, although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on. But don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you?
and take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Oh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Billy Joel, le morceau Vienna, c'est le standard de ce soir dans la 20e heure sur France Inter. Je suis avec vous, Stéphanie Solinas, et quand on regarde tous les projets que vous avez réalisés, artistiques, on se dit, elle fait des choses très très drôles, d'une façon très sérieuse. Et j'aimerais bien que vous nous décriviez, par exemple, le projet Dominique Lambert, parce que c'est incroyablement ludique, poétique, artistique, enfin je vous laisse en parler.
Dominique Lambert, c'est une étude en 6 étapes de l'identité de tous les Dominique Lambert de France, en fait, qui part vraiment de cette idée d'une curiosité pour les homonymes, se dire que justement la première chose que l'on partage généralement de son identité, c'est son prénom, c'est son nom, et qu'est-ce que ça fait si ce prénom et ce nom est partagé par d'autres, et par beaucoup d'autres.
191
Dominique Lambert, effectivement. Alors pourquoi j'ai choisi Dominique Lambert? Parce que je voulais une population d'études qui soit mixte. Et Dominique, quand j'ai commencé ce travail, donc était le premier prénom mixte le plus porté en France. Et c'était également le 27e prénom le plus porté en France, pour catégorie prénom masculin, prénom féminin mélangé. Et j'ai donc décidé de l'associer à Lambert, qui était le 27e nom de famille le plus porté en France. C'est comme ça que j'ai obtenu, rencontré les Dominique Lambert. 191 Dominique Lambert répertoriés dans les pages blanches.
Ils ont tous dit oui.
Auquel j'ai décidé d'écrire. Et j'ai d'abord demandé une réponse à un portrait chinois. Un portrait chinois qui est une manière de se décrire par des mots, mais qui sont aussi des images. Si j'étais une couleur, je serais le bleu. Si j'étais un animal, je serais le chien. Et à ceux qui ont répondu, c'est-à-dire 65 Dominique Lambert sur 191, j'ai réécrit et j'ai demandé une photographie d'identité. Et là, j'ai eu 20 réponses. Donc, ce sont les 20 enfin 21, puisqu'il y a 21 Dominique Lambert dans ma collection finale, et donc ce sont eux qui ont fait le choix finalement d'être présents. Pour moi, il y avait cette dimension d'exhaustivité qui était très importante.
Les portraits ensuite, chinois.
Exactement. Et ensuite, donc j'essaye de m'approcher de ces Dominique Lambert en 6 étapes, en utilisant les techniques officielles de représentation de l'identité. Donc une fois que j'ai tous mes portraits chinois, j'organise un comité, le comité consultatif pour la description des Dominique Lambert, avec un psychologue, un inspecteur de police, un statisticien et un juriste. Et la mission de ce comité, c'est de décrire physiquement le ou la Dominique. À partir de cette description physique, je travaille avec un dessinateur, Benoît Bonne-Maison-Fitte, qui transforme ce texte, lui n'a accès qu'au texte descriptif, ces mots en dessin, avec les premiers traits du ou de la Dominique Lambert. À partir de ce dessin, je travaille avec Dominique Ledé, enquêteur à la préfecture de police de Paris.
Dominique Ledé, je pense que c'est un pseudo. C'est Dominique Lambert, en fait.
Qui, lui, donc, transforme le dessin en portrait robot avec les portraits robots de la police. Et ensuite, je cherche des gens dans la réalité qui ressemblent à ce portrait robot pour les photographier. Et la dernière modalité de cette chaîne de représentation, c'est la photo d'identité du ou de la véritable Dominique Lambert à partir duquel a été dressée cette chaîne de ressemblance. Mais évidemment, cette photographie n'est jamais montrée.
Et vous avez réussi à en trouver qui coïncidait ?
Alors c'est assez étonnant parce qu'effectivement, il y a des Dominique Lambert qui ressemblent en tout point, c'est-à-dire physiquement, style vestimentaire. Il y a des Dominique Lambert qui n'ont aucun rapport avec ce qui a été décrit. Et il y a des Dominique Lambert qui ne ressemblent pas à leur description, mais qui ressemblent et extrêmement à un autre Dominique Lambert de la séquence.
Thank you.
C'est votre choix musical, Stéphanie Solinas, Travis Laplante, Human.
Oui, c'est un musicien que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une résidence d'artiste que j'ai fait à San Francisco et qui m'a permis justement d'avancer sur l'être plus. Il y a un moment, donc, dans cette résidence, on a fait ce que les Américains appellent un show and tell, c'est-à-dire que tous les artistes et écrivains de la résidence étaient invités à se présenter aux autres, à présenter leur travail. Et j'ai un souvenir marqué de Travis Laplante, qui était justement un musicien invité en résidence et qui a commencé... pour nous partager son travail, il est arrivé face à nous avec son saxophone. Il s'est placé face à nous et il a fermé les yeux. Et ce moment était, moi j'y projetais, comment dire, on avait tous nos regards étaient tournés vers lui et il était seul face à nous avec son saxophone, avec ses yeux fermés. J'y projetais une vulnérabilité, une solitude. Et il y avait un silence et à un moment. Quand il l'a décidé, il a ouvert les yeux. Et en fait, il a transformé, comment dire, c'était nous, en fait, qui étaient regardés. C'était nous qui étions, pardon, regardés. C'est lui qui avait pris le pouvoir, en quelque sorte, et c'est nous qui étions vulnérables. Et à partir de ce moment-là, il pouvait nous embarquer où il souhaitait.
On n'a, hélas, pas le temps de développer la découverte, mais est-ce que vous pourriez dire deux mots sur l'artiste islandaise Rúri, qui est notamment les œuvres Gate, Rainbow et Glass Rain, mais vraiment en quelques secondes.
En deux mots, oui, Rúri, c'est une artiste islandaise que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer justement dans le cadre de mon livre qui s'appelle Le Guide du Pourquoi Pas. Et je dirais un mot par rapport à son travail, puisque c'est son travail qui nous accueille si on va en Islande et qu'on atterrit à l'aéroport de Keflavik. Il y a son œuvre qui nous attend, qui s'appelle Rainbow. Et dans les entretiens qu'on avait fait ensemble, elle évoquait justement le fait que donc un arc-en-ciel se dit Bifrost, dans la mythologie nordique, et donc ça veut dire la route qui bouge et que justement l'évolution, la transformation de soi, l'avancée dans le chemin de la vie se fait sur une route qui bouge, donc cette dimension dynamique, cet croisement entre les dimensions, entre la vie et la mort, mais également l'évolution est une forme dynamique.
C'est parfait, ça résume à peu près toutes les questions que vous avez essayé d'éluder, mais en donnant quand même un peu de vous. Merci beaucoup Stéphanie Solinas.
Merci à vous.
J'invite les auditeurs à aller regarder un projet dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui est Ne me regarde pas. Je vous laisse découvrir ça, si vous aimez les fantômes et l'opéra. Et je rappelle qu'on peut aller voir et jouer dans votre exposition Rien ne va plus jusqu'au 26 juillet à la galerie Jean-Kenta Gauthier-Vaugirard à Paris. Votre dernier ouvrage, Lettre plus itinéraire pour devenir soi-même, est paru aux éditions du Seuil. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Pascal Dassibat, Betty Algret et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Loïs Moreau.